Bonsoir à chacun.
Et que le Seigneur soit béni pour ces moments précieux que nous voulons passer sous le regard du Seigneur. La semaine dernière, si vous vous souvenez du sujet, nous avons partagé de l'importance d'avoir la crainte de Dieu. C'est une grande bénédiction. Il y a énormément de promesses qui sont rattachées aux chrétiens qui ont le respect des choses de Dieu. Entre autres, par exemple, nous allons faire deux textes dans les psaumes, le psaume 33 et au verset 18. Il y a énormément de bénédictions pour ceux qui craignent Dieu. Est-ce que ça vous intéresse? Ah oui, on a besoin d'être encouragé, on a besoin d'être motivé, on a besoin d'être fortifié, mais on a besoin également d'encouragement, de promesses. Par exemple, dans le psaume 33, verset 18, il est dit ceci. « Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. » Un petit peu plus loin, dans le psaume 37, au verset 18 et 19, également, il nous est parlé de ce cœur intègre. « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. » Dans ces deux textes, nous parle des chrétiens qui sont intègres et des chrétiens qui ont la crainte de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Eh bien qu'au jour de la famine, eh bien Dieu les bénira. Est-ce que c'est bien? Vous rappelez le témoignage de la veuve de Sarepta pendant la famine terrible qui a sévi pendant 3 ans en Israël? Eh bien, il nous est dit que Dieu a envoyé le prophète vers une veuve. Vous rappelez cette histoire? Elle est merveilleuse. Elle explique que tous les chrétiens qui sont fidèles, qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui sont intègres, eh bien, quand il y aura la famine, quand il peut y avoir toutes sortes de famines, eh bien, Dieu pourvoira. Vous savez que les prophéties disent que dans les derniers jours, il y aura des famines. Il y a des endroits, hélas, où il y a de très grandes famines. Vous le savez, si vous étiez là dimanche, M. Bordeneuve parlait de certaines régions du Niger, où les chrétiens n'ont rien à manger. Et la Bible dit que ceux qui ont la crainte de Dieu et ceux qui sont intègres seront protégés lorsqu'il y aura de la famine. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous en êtes certain? Est-ce que vous le croyez? C'est important. Alors, ils sont attentifs aux commandements de Dieu. Ces gens qui craignent Dieu, ces gens qui sont intègres, ce sont des chrétiens qui font toujours attention. Voilà, qu'est-ce que Dieu a à me dire? C'est certainement la raison pour laquelle nous sommes ici ce soir. Alors, hier soir, je pensais aux chrétiens, avant de me coucher, je pensais aux chrétiens qui sont découragés. Ça arrive que des chrétiens soient découragés. Et je pensais à ce verset, dans Hébreux chapitre 12, verset 3, je pensais à ce verset qui nous exhorte à avoir les yeux fixés sur Jésus. Et plus que les yeux fixés sur Jésus, il nous est dit même de considérer. Au verset 3, il nous est dit d'avoir les regards sur Jésus. Et au verset 3, de considérer Jésus. Vous savez, c'est une chose de regarder, ça n'est une autre de considérer. Au verset 3 du chapitre 12, il nous est demandé de considérer, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Pourquoi? Afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Et je vous avoue que hier soir, je pensais à ce verset, je pensais aux chrétiens qui se découragent, qui se font piéger parce que la vie est faite d'épreuves, de lassitude, de combats intérieurs. On a des combats intérieurs, des craintes intérieures, on a des luttes intérieures, des luttes extérieures, on a toutes sortes de tribulations, d'angoisses, de combats à mener, etc., etc. Est-ce que c'est vrai ceci? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Jésus a dit vous aurez des tribulations? Ou est-ce qu'il a dit quand vous serez convertis, ce sera terminé, vous n'aurez plus d'épreuves? Et non, Jésus a dit vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et si nous voulons vivre dans cette grâce, d'avoir de l'assurance, afin qu'on ne se lasse pas l'âme découragée, afin qu'on sache que quoi que ce soit qui arrive, Dieu pourvoira. Est-ce que vraiment vous le croyez ça, que Dieu gardera pendant toute notre vie, de toutes les circonstances, si nous sommes fidèles et si nous sommes intègres? Vous rendez compte l'assurance qu'on peut avoir? C'est extraordinaire ça. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, Dieu veut que nous vivions dans cette grâce. Alors, le titre de ma prédication, il tient en quelques mots, « Prenez courage ». Et prenez toutes les armes, car c'est bien de croire dans les promesses. Est-ce que c'est bien de croire dans les promesses? Bien sûr, mais les promesses, que vous le vouliez ou non, elles sont quand même aussi liées à certains commandements. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Et beaucoup trop de chrétiens ne sont pas attentifs. Ils attendent la bénédiction, ils croient en la bénédiction, mais ils n'ont pas compris qu'énormément de grâces, énormément de bénédictions, énormément de faveurs sont rattachées aux gens qui sont intègres, qui sont droits, qui prennent au sérieux chaque commandement du Seigneur. Quand Dieu dit « prenez courage », c'est un commandement qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux, parce qu'on peut se lasser. On peut se lasser, là, me décourager. Combien de chrétiens ont rétrogradé dans notre pays? Je discutais avec un chrétien qui me disait que dans son église, 95% des chrétiens ont quitté la maison du Seigneur. Ça fait peur quand même, oui ou non? 95%, pourquoi? Eh bien parce que les gens ont eu l'âme découragée, afin que vous ne vous lassiez pas l'âme découragée. Et je pensais à ce verset hier soir, avant de m'endormir, parce que j'aime bien lire un peu avant de me coucher, je pensais aux promesses d'Ésaïe, je lisais les promesses dans Ésaïe, et puis tout d'un coup je disais, mais comment être découragé quand on lit des promesses aussi merveilleuses? Et après je pensais à ce verset, oui, que Dieu nous garde de nous lasser. Parce que le diable fera tout pour que nous nous lassions, pour nous décourager. Et si nous nous décourageons, si on prend ce verset à l'envers, Hébreux 12, 3, si on prend ce verset à l'envers, on a vite fait de comprendre qu'il y a des gens qui sont découragés parce qu'ils ne regardent pas Jésus. Quand on a les yeux fixés sur Jésus et quand on considère celui qui a tout accompli, laissez-moi vous dire que vous ne vous lasserez pas. C'est vrai que si nous restons, pourquoi quelqu'un peut rester dans le découragement? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, mais pourquoi tel frère ou telle sœur est toujours découragé? Pourquoi il y a des frères découragés? Pourquoi des frères courageux? On peut se poser la question. Est-ce que ça dépend de quoi? Il y en a un qui a plus d'épreuves, il y en a l'autre qui a moins d'épreuves, il y a des gens qui n'ont jamais d'épreuves, vous savez, ils ne sont pas pour ça fortifiés, croyez-moi à tous égards. Moi, je pense que le diable, c'est vraiment un voleur. Vous voyez, vous avez fermé votre maison avant de venir? Pourquoi vous avez fermé votre maison à clé? Ça vous est jamais arrivé d'oublier de la fermer, la maison, et toute la réunion de dire « j'ai fermé ma maison, j'ai pas fermé ma maison à clé ». Ça vous est jamais arrivé? Pourquoi on ferme notre maison? Parce qu'on ne veut pas que quelqu'un vienne nous voler ce qu'il y a à l'intérieur. Eh bien, il y a des chrétiens, leur vie est complètement livrée à l'action de l'ennemi, et ils sont tout le temps en train de se faire voler les choses qu'ils auraient dû garder. Et de la même manière qu'on garde certaines choses, moi j'ai connu des sœurs qui me disent « Si vous saviez où je cache mes bijoux quand je vais en vacances, même un voleur ne peut pas le trouver. » Eh bien, si on faisait pareil avec les vertus spirituelles, c'est moi vous dire qu'on serait des chrétiens fortifiés. On devrait faire en sorte de ne jamais se faire voler. Quand on est découragé, on est comment? On est abattu, on est de mauvaise humeur. Est-ce que l'œuvre de Dieu peut se faire avec des gens qui sont de mauvaise humeur? Mais non, imaginez-vous si on était toujours de mauvaise humeur. Imaginez-vous qu'on soit tous de mauvaise humeur. L'état d'esprit dans lequel qu'il y aurait dans nos familles, qu'il y aurait dans l'église. L'œuvre de Dieu ne peut pas s'accomplir dans la mauvaise humeur. Le problème du découragement, c'est qu'il crée une mauvaise humeur. Bon, ça c'est grave, mais le problème du découragement, c'est pire, c'est qu'il nous amène à parler contre Dieu. Tout ce que je vous dis, c'est biblique, bien entendu. Lorsque les Hébreux se découragèrent dans le désert, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à parler contre Dieu. Le problème du découragement, je donne quelques brides comme ça, le problème du découragement, c'est qu'il est contagieux. Et que même sur les lois de la guerre, il était stipulé que si des soldats étaient découragés, eh bien, il valait mieux qu'ils restent à la maison, plutôt que de décourager tout le peuple, toute la compagnie. Vous vous rendez compte à quel point Dieu avait prévu les dangers du découragement. C'est pour cela que quand vous voyez sur les lois de la guerre, je peux vous dire que ça vous fait réfléchir. C'est pour cela que Dieu nous demande de combattre, et que pour combattre, il faut prendre courage, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas avoir. On peut négliger certaines choses, mais le courage, c'est quelque chose que nous avons absolument tous besoin, surtout dans un monde malheureux dans lequel nous sommes. C'est un commandement du Seigneur, prenez courage. C'est un commandement, je ne sais pas si vous aimez les commandements. Il y a des chrétiens qui ils s'en fichent des commandements. Eux, ils veulent la bénédiction, mais ce sont des chrétiens qui n'ont aucune vigueur, aucune ferveur, parce qu'ils n'ont pas été sérieux avec les commandements du Seigneur. Parce qu'on va s'attaquer ce soir, pendant quelques instants, juste à ce commandement, prenez toutes les armes de Dieu. Ça nous indique qu'il y a un combat. Parce qu'à quoi ça sert un soldat qui a toutes les armes? Imaginez un soldat qui a toutes les armes. Imaginez là, un grand soldat avec le casque, les gilets pas. Vous avez vu, des fois on envoie aux informations, les soldats qui sont au Niger, etc., comment ils sont armés. Vous avez vu, c'est impressionnant. Tout l'armement qu'ils ont, les gilets pare-balles, etc., etc., etc. Bon, imaginez ce soldat qui est armé de toutes les armes possibles et qui est découragé. Parce que les armes extérieures, c'est bien un gilet pare-balles, c'est bien un casque, c'est bien un fusil d'assaut. Mais si vous êtes découragé, à quoi ça sert un soldat armé qui n'a pas de courage intérieurement? Eh bien, rien. À rien, au contraire, à décourager les autres. Et nous devrions, dans l'Église, veiller à faire en sorte de ne pas décourager les autres. Est-ce que c'est important pour vous? Ou est-ce que vous dites, oh, moi, ça m'est égal, de toute façon, les autres, ils pensent ce qu'ils veulent? Moi, je crois que ce n'est pas bien. Je crois qu'un chrétien, il doit faire en sorte de ne pas décourager son frère, sa sœur. Je pense que c'est beaucoup plus important que tout ce que nous le pensons, Alors nous allons lire ce texte qui nous préoccupe. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des promesses extraordinaires, que pendant la famine, eh bien, un chrétien intègre, un chrétien qui a la crainte, ne sera pas affecté parce que Dieu a promis de le protéger, qu'il y a des commandements, prenez courage, et que dans les Éphésiens, à la fin de ce chapitre, il nous est parlé d'un combat. Il y a un combat. La vie avec Dieu, c'est une vie de quoi ? Paul dit, la vie avec Dieu, c'est une vie de foi, d'espérance et d'amour. Est-ce que c'est vrai ? Voilà, ça, ce sont des vertus. C'est un petit peu comme dans la voiture, vous veillez toujours à ce qu'il y ait de l'huile, qu'il y ait de l'essence, de l'eau dans le radiateur. Quand vous partez en vacances, qu'est-ce que vous faites ? Vous regardez votre voiture ou non ? Si elle a 250 000 km, est-ce que vous regardez s'il y a de l'huile? Eh oui, vous regardez, vous faites attention. Voilà, pourquoi? Parce que vous savez que vous risquez de ne pas aller loin, que les pneus ne soient pas dégonflés, etc. Vous veillez. Eh bien, chrétien, il y a des choses sur lesquelles il faut absolument qu'il veille. La vie avec Dieu, c'est une vie de foi, d'espérance et d'amour. Et si nous ne veillons pas à ces choses, nous allons nous faire piéger. Alors, dans Éphésiens, au chapitre 6, ça continue avec ce... L'épître termine avec cette exhortation... Sur le combat, il y a un combat à mener. Éphésiens chapitre 6, verset 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ce n'est pas parce que nous ne les voyons pas qu'ils n'existent pas, ces esprits méchants. C'est pourquoi reprenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et prier pour tous les saints. Les saints, ce n'est pas les gens qui sont morts depuis des millénaires, qui étaient des héros de la foi. Les saints, c'est les chrétiens. Justement, les chrétiens dans Éphésiens sont comparés, par exemple, à des héritiers. Est-ce que c'est bien d'être un héritier ou co-héritier? Est-ce que c'est bien de savoir que vous êtes les héritiers de Christ? C'est bien l'héritage de Christ? Est-ce que vous pensez que ça doit être bien l'héritage de Christ? Je pense que ça doit être quelque chose de bien. Un chrétien, il est comparé à quoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire, tiens, à quoi sont comparés les chrétiens dans l'épître aux Éphésiens? Les stagiaires, s'il vous plaît, à vous d'intervenir. À quoi sont comparés les chrétiens? Non. Oui, d'un peu, mais fait une question plus précise. Par exemple, il est dit que nous sommes des élus. Est-ce qu'on est des élus? Qu'on est adoptés? Qu'on est prédestinés? Qu'on est... qu'est-ce qui est écrit encore dans l'Éphésiens? Je vais chercher. Qu'on est scellés. On a été scellés. Vous voyez, c'est quelque chose, il y a le sceau de Christ sur chacun de nos vies, qu'on est justifié, qu'on est des saints, etc. Mais, dans ce texte aussi, nous voyons que le chrétien est un soldat. C'est bien d'être héritier, de dire, voilà, je suis un héritier du ciel, merci Seigneur. Mais il n'y a pas que ça. Il faut accepter l'idée que nous sommes aussi des soldats. La marche que nous avons à mener est une marche qui peut être bénie. Il y a des jours faciles, mais il y a des jours difficiles. Il y a des jours de paix, il y a des jours de combat. Oui ou non? Il n'y a pas des jours plus difficiles que d'autres. Voilà. Et qui dit combat, bien sûr, dit difficulté. Et qui dit combat, dit... qu'est-ce qu'on peut dire? Qui dit combat, dit quoi? Oui, oui, il peut y avoir des moments d'épreuves. Qui dit combat, dit... Qui dit... Oui, voilà, moi, c'est sûr. Voilà, Jérémie, lui, c'est un grand. Qui dit combat, dit victoire. C'est vrai qu'un chrétien... Un chrétien, c'est vrai ça. Parce que c'est sur mes notes aussi. Qui dit combat doit dire victoire. Parce qu'on sait que la victoire, elle est gagnée. Oui ou non? Est-ce que Jésus a promis la victoire? Est-ce que Jésus dit à celui qui vaincra? Mais vous vous rendez compte, c'est la seule armée du monde, l'Église, qui sait l'issue du combat. Nous savons que nous gagnerons. Si nous combattons, si nous vaincrons. Parce que si Jésus dit à celui qui vaincra, ça sous-entend aussi qu'il y en a qui ne combattront pas. Et il y en a qui ne vaincront pas. Vous voyez, il ne dit pas tous les chrétiens vaincront. À celui qui vaincra. Donc, c'est également le chrétien qui va combattre. Il y a des chrétiens qui ne combattent pas. Ils ne veulent pas prier. Ils vous diront qu'ils n'ont pas le temps. Je sais bien que Dieu me bénisse, mais moi... Alors que Dieu nous appelle à combattre. Oui, on est des héritiers, oui, on est des fils, oui, on est des disciples, oui, on est ses enfants bénis et tout ce que vous voudrez. Mais franchement, un chrétien qui ne veut pas combattre est un chrétien qui aura du mal à être un vainqueur. On doit s'entraîner, on doit venir à la prière. Est-ce que c'est important pour vous la prière? Ou est-ce que vous dites, bon, moi, j'ai pas le temps, moi, prier, c'est pas mon truc? Ben, moi non plus. Le combat, c'est sûr qu'on préfère... On préfère s'asseoir et manger. Qu'est-ce que vous préférez, vous? Vous asseoir dans un bel hôtel, 5 étoiles, avec tout climatisé, dans une bonne musique de fond, des lumières tamisées. Ou est-ce que vous préférez être au Mali avec un Kalachnikov en train de vous battre? Qu'est-ce que vous préférez? Hein? Bon, on a vite choisi. Mais il faut les deux. En vérité, il faut les deux. Il y a un temps de repos et il y a un temps de combat. Et un chrétien qui ne combat pas, c'est un chrétien qui ne vaincra pas. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut apprendre à combattre. Oui, parce que qui dit combat dit victoire, pour faire vite, mais qui dit combat dit aussi souffrance, dit blessure. On peut parler de blessure lorsqu'on est dans le combat. Et Satan fera tout pour détruire l'œuvre de Dieu. Vous savez, ce combat, il faut le prendre quand même en considération. La prière, il faut la prendre au sérieux. La prière, pour beaucoup de gens, ils disent, mais moi je prie, mais je me demande à quoi ça sert. On ne se rend pas compte que si Dieu a institué la prière... C'est parce que ça nous permet de vaincre et d'amener les autres dans une véritable victoire. Moi, je suis énormément peiné lorsque des chrétiens me disent « Mais moi, la prière, je ne vois pas trop à quoi ça sert. » Vous voyez, comme si c'était pour les gens qui ont du temps. Ils disent « Voilà, si tu as du temps, tu n'as qu'à prier. » Non, je crois que tous les chrétiens doivent vraiment prier. Ce texte, dans les Éphésiens, nous enseigne qu'il y a un combat. Il y a vraiment un combat contre la puissance des ténèbres. Il y a des combats humains. Alors, ces combats humains... Est-ce qu'ils sont tous humains ou est-ce que parfois ils ne sont pas spirituels? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des combats avec des personnes et de vous rendre compte que le combat, il était plus spirituel que humain? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de le réaliser? Voilà. Parce que, qu'est-ce que nous dit ce texte? Il y a un combat. Donc, il y a un combat qu'il faut accepter qu'il y ait cette guerre. D'un autre côté, s'il y a ce combat, il faut aussi prendre conscience que ce n'est pas avec des armes humaines que l'on va gagner. Puisque c'est un combat spirituel, il faut des armes spirituelles. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument comprendre. C'est pour ça que les églises ne grandissent pas, que les églises végètent, que beaucoup d'églises ferment. Parce que vous savez, ça fait mal au cœur quand vous voyez tous ces temples fermés. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans l'Aveyron, il y a 15 ans de ça. J'étais dans un village, il y avait, à l'époque, il y a 200 ou 300 ans de ça, il y avait 1000 habitants. Bon, c'est pas beaucoup 1000 habitants. Et bien dans ce village de 1000 habitants, il y avait 3 grands temples qui étaient pleins tous les dimanches. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Tout le village allait au temple le dimanche matin. Les 3 temples étaient remplis. 3 temples, à peu près comme cette église. Vous vous rendez compte, dans un village de 1000 habitants. Et j'ai demandé au pasteur qui habitait pas loin, il m'a dit oui, il y a 100 ans ou 200 ans, ces 3 temples étaient complètement remplis. Tout le monde allait à l'église. Et quelqu'un pouvait laisser sa Bible sur le banc du village, et bien le lendemain, n'importe quoi qui était oublié, personne ne touchait à quoi que ce soit. qu'est-ce qui s'est passé dans ces villages où il n'y a plus rien, tous ces temples sont fermés? Eh bien, je pense qu'on n'a pas veillé, on n'a pas combattu le bon combat. Et nous devrions prendre ces choses au sérieux. Je le répète, ce n'est pas pour les gens qui ont du temps, ou plus ou moins de temps. C'est un combat auquel Dieu nous appelle tous. La Bible est catégorique. Veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui viendront sur la surface de toute la terre. Toute la terre va être... contaminé par la puissance des ténèbres. Vous avez vu, moi je vais pas, c'est pas politique ce que je veux dire, mais quand vous voyez que dans un pays comme le nôtre, on a voté pour l'homosexualité, il ne faut pas s'imaginer que ça va bénir le pays. Vous le comprenez bien, ça ne peut qu'aggraver la situation de misère dans notre pays. Je veux dire, c'est pas, là, je ne suis pas en train de dire je suis plus de tel parti. Non, mais il faut comprendre que ce sont des choses abominables devant Dieu, qui ne peuvent qu'amener la malédiction sur le pays, disons les choses comme elles sont. Mais les chrétiens qui sont intègres, les chrétiens qui craignent Dieu, les chrétiens qui disent « oui, je suis béni, oui, je suis un fils, oui, je suis un héritier, oui, je suis co-héritier, oui, je suis adopté, etc., etc. » Mais je suis et je dois être aussi un soldat et je dois combattre ce bon combat. Je ne veux pas que ce soit l'ennemi qui rentre dans l'Église. Nous voulons que ce soit la puissance du Saint-Esprit qui soit dans l'Église. Vous êtes d'accord pour cela? Est-ce que vous voulez gagner des âmes? Est-ce que nous voulons voir des âmes sauvées? Est-ce que nous voulons voir des gens convaincus de péché? Ça, on ne peut pas le faire, nous. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre de péché. C'est pour ça que nous ne devrions pas nous autoriser à nous relâcher dans le domaine de la prière. Ce sont des commandements. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Nous savons que tout est gagné. Nous savons que tout est accompli. Nous savons qu'au calvaire, Jésus a cloué les principautés. Est-ce que c'est écrit que Jésus a cloué les principautés et les dominations? Est-ce que c'est écrit que Jésus a livré un spectacle, les dominations, les principautés? Donc, on sait que Jésus a tout accompli. Mais ce n'est pas parce que Jésus a tout accompli qu'il faut se frotter les mains et dire « oui, il n'y a plus rien à faire ». Justement, Jésus a tout accompli, mais il faut combattre. Et on devrait se dire « oui, la réunion de prière, c'est quelque chose de non négociable ». Si vous avez lu les écrits de Spurgeon, cette église en Angleterre qui a été profondément bénie, il y avait deux étudiants qui sortaient de l'école biblique, et ils sont arrivés devant l'église un dimanche matin, c'était une heure avant, ils voulaient assister au culte du pasteur Spurgeon, et c'était au mois de juin, ils venaient de finir leur école, et ils sont tombés sur quelqu'un, ils ne savaient pas que c'était Spurgeon. Et voilà, on est venu écouter le pasteur Spurgeon, etc. Et le pasteur dit, eh bien, je vais vous faire visiter le système de chauffage de l'église. Ah bon? Et au mois de juin, vous voyez? Alors ils les suivent, ils descendent au sous-sol de l'église, c'est un grand temple, il y avait 6000 places. Et là, le matin, 2 heures avant, il y avait 1000 chrétiens en train de prier. Et ces deux étudiants, ils ont compris pourquoi l'église était bénie. Une heure avant, il y avait 1 000 à 2 000 personnes qui venaient tous les dimanches matins et qui venaient prier pour que Dieu bénisse la prédication. Et Spurgeon, ce grand homme de Dieu, je ne sais pas si vous avez lu certains de ses bouquins, mais c'est vraiment quelque chose. Eh bien, cet homme, il expliquait que la bénédiction, elle est là, pas parce qu'il y a un homme supérieur, mais parce qu'il y a des chrétiens qui combattent et qui supplient Dieu de sauver des âmes et qui ne sont pas là une fois de temps en temps. Ils ne viennent pas prier 2 minutes. Ils ne sont pas là en train de dire « Oh, je ne prie pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Ils supplient Dieu. Et je crois qu'on devrait franchement réagir parce que je peux vous dire que la puissance de l'ennemi, eux, ils ne sont pas timides. Croyez-moi qu'ils ne sont pas timides pour faire le mal. Et nous, les chrétiens, je crois qu'on devrait se ressaisir et dire, bon, je dois venir prier. Est-ce que tout le monde pourrait venir prier et lever sa voix? Et quand quelqu'un prie pour le salut, disant, amen, on prie. Est-ce que c'est pas ça, l'Église? Dans l'Église primitive, on peut se recueillir, on peut prier dans le silence, on peut prier dans son cœur. Mais je crois qu'il y a des moments où on doit tous ensemble s'unir. Et les chrétiens disent, oh, je ne veux pas prier. Écoutez, je pense que quand vraiment on réalise que les gens sont en train de partir en enfer. Moi, je vous ai souvent donné cette image de mon fils, je m'appelle Jonathan, on était à Font-Romeu, et on était dans une pharmacie, on avait acheté un petit truc pour un gosse qui était malade, et tout d'un coup, je vois Jonathan partir en courant, la porte était ouverte, et j'ai entendu, vous savez, on entend des fois un car qui descendait en trombe, et j'ai vu Jonathan qui partait en courant, et ça a pris une seconde, et j'ai hurlé dans la pharmacie, et j'ai crié « John !» J'ai hurlé, et John, il s'est arrêté, et juste le car est passé. Et moi, j'étais là, j'étais heureux, tout le monde me regardait, j'étais content parce que je savais que si je n'avais pas crié, Jonathan se serait fait écraser. Je le sais, parce qu'il s'est arrêté juste à 50 cm du car. Et je savais, comme il me connaissait, qu'en criant, il s'arrêterait. Et mes frères et sœurs, vous ne croyez pas que c'est temps de, entre guillemets, de crier à Dieu, de dire « Seigneur, on veut combattre », pas crier, ce n'est pas une question de décibels, pas parce qu'on va hurler physiquement, mais dire « Seigneur, sauve des âmes ». Dans nos familles, est-ce que ce n'est pas important que des âmes soient sauvées? Est-ce que ce n'est pas important que tous nos enfants soient sauvés? Est-ce que Dieu peut sauver tous nos enfants? Est-ce que, franchement, ça ne vaut pas la peine? Oui, mais quand même, la réunion de prière, une réunion par semaine. Est-ce que ça ne vaut pas la peine qu'on se mobilise, que ça aille bien, que ça aille mal? On vient prier. Est-ce qu'il faut prier? Est-ce qu'on prie que quand tout va bien? Est-ce que c'est écrit dans la Bible? Tu prieras quand tu es de bon poil. Est-ce que c'est écrit comme ça? Est-ce que c'est écrit comme ça? Tu prieras quand tu as envie. Tu prieras si les chrétiens sont gentils, si ton patron il est gentil, si ta femme elle a été sympa. Est-ce que c'est écrit? Prier sans cesse. Ça veut dire prier en tout temps, ça veut dire voilà, quand tout va bien, dans les temps difficiles, dans les jours mauvais. C'est écrit dans les jours mauvais. Il y a des jours mauvais, il y a des jours difficiles. C'est vrai qu'il y a des jours faciles. Merci Seigneur, heureusement qu'il y en a. Mais il y a des jours difficiles. Il y a des jours où on est vraiment dans le combat. Il y a des jours où il y a la tentation. Est-ce que ça peut arriver qu'il y a des jours de tentation? Ah oui. Il y a des jours où on est affligé, il y a des jours où on est malmené, il y a des jours où on passe des moments difficiles. Il y a les ruses du diable, nous devons lutter contre les ruses du diable. Il y a des choses pour lesquelles il faut lutter. La rancune, est-ce que ça peut nous tomber dessus, la rancune? Oui, ça peut. Et voilà, il faut arriver. Hier, à la pastorale, le pasteur rappelait que Anne, elle était remplie d'amertume. Et elle a prié. Est-ce qu'elle n'a pas prié remplie d'amertume? Eh oui, il nous a dit qu'elle était pleine d'amertume, ça ne l'a pas empêché de prier. Et comment Dieu l'a béni? Il y a des gens qui disent, non, je ne prie pas, je ne prie plus, je ne comprends pas. Mais mes frères et sœurs, il y a dans les mauvais jours, justement, nous devons nous armer et prendre toutes les armes pour ne pas nous laisser piéger. Combien de chrétiens sont là et se sont laissés piéger par les ruses du diable? Moi, quand j'entends des chrétiens, franchement, 10 ans de conversion, 15 ans de conversion, oui, d'accord, monsieur Go, mais est-ce que vraiment Dieu a dit? Vous rappelez, les ruses du diable, c'est les tentations, ça, c'est les ruses de l'ennemi. Est-ce que c'est sûr? Une dame qui croit en Dieu disait ce matin à ma femme, à ma belle-mère, lui disait, oui, mais est-ce que vraiment, après la mort, elle est chrétienne, hein, est-ce qu'il y a vraiment quelque chose? Moi, franchement, ça me désole quand je vois ça, quand on voit tout ce que Jésus nous a laissé. Mes frères et sœurs, prenez courage. Prenez toutes les armes, dans les jours bons, dans les jours mauvais, en tout temps, quoi qu'il se passe, quoi que les gens peuvent dire, quoi qu'il peut se passer, vous êtes malade, vous êtes en bonne santé, bien sûr que quand on est malade, est-ce qu'on prie davantage? Non, mais on peut prier quand même quand on est malade. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes quand on est malade? Vous voyez, on ne devrait pas, sinon après il y a des gens qui ne prient plus, il y a des gens moi, que je n'ai jamais entendu prier dans l'église, et c'est pas un reproche, parce qu'on peut, ne pas prier à haute voix, et être là à la réunion de prière, vous voyez ce que je veux dire? Mais on est là, et quand un frère prie ou quand une sœur prie, on dit Amen, on est là, on persévère avec. C'est pas une question que tout s'exprime, mais je crois que si on était conscient que des multitudes d'hommes et de femmes vont en enfer, que nos enfants vont en enfer, je crois qu'on ne pourrait pas faire autrement que dire Seigneur, je veux intercéder, je veux véritablement me revêtir de toutes les armes de Dieu, car ce sont des armes spirituelles. Vous savez, un des plaisirs de Satan, c'est de nous décourager, c'est de faire en sorte que les chrétiens se disputent. Est-ce qu'il y a des églises où les chrétiens se disputent? Moi, j'ai vu ça. Moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. Je vous l'avoue franchement. Ça peut arriver, on n'est pas d'accord, et on se demande pardon. Est-ce que ça peut arriver, ça? Oui, c'est pas grave, ça. Mais que des chrétiens se disputent, ça doit faire plaisir au diable. Il doit se frotter les mains parce que Dieu veut qu'on s'accorde. Il veut qu'on s'accorde. Et qu'il y a une victoire à condition de prendre toutes les armes. Parce que, par exemple, l'irritation, est-ce que la colère accomplit la justice de Dieu? C'est écrit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Vous voyez? Alors, oui, mais moi c'est mon caractère, c'est comme ça, je me mets souvent en colère, vous inquiétez pas. Ben oui, même fait la Bible dit que la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, en tout cela, il faut le déposer aux pieds du Seigneur. le mauvais jour. C'est pas le même pour tout le monde, le mauvais jour. Pour un, ça va être la santé, parce que de temps en temps, il a une mauvaise santé. Pour un autre, ça va être les tentations. Il y a des chrétiens qui se battent avec les tentations. Est-ce que Dieu peut nous délivrer de la tentation? Moi, je le crois. Je crois que Dieu peut nous délivrer, qu'on doit savoir ce qui est un problème. Moi, je connais un homme qui avait un problème avec, l'alcool. Un jour, il a pris toutes les bouteilles, il les a toutes cassées. Il a tout cassé dans la poubelle et ça a été terminé. Il a dit, mais j'aurais dû le faire plus tôt. Je n'ai plus de tentation parce qu'il n'a plus d'alcool à la maison. Est-ce qu'il a bien fait? Ben oui, il a bien fait. Parce que c'était vraiment un problème de tentation. Donc, Dieu connaît nos luttes. Dieu connaît nos combats. Et ça vaut la peine parfois d'en parler avec quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu me conseillerais? Oui, il y a des jours où c'est vraiment pas difficile. Alors, où en sommes-nous de ces armes? Pour terminer, voilà, on termine avec cette question. Où en sommes-nous de ces armes? La vérité, on les relit? On les relit ces armes? Allez, on les lit. Quelles sont les armes de Dieu? Lisons-les ensemble, s'il vous plaît. Alors, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Première arme. « Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Et puis, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Cela nous parle, bien sûr, de ce courage interne. Donc, combien il y en a d'armes? Vous les avez comptées?
6.
La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Alors, il faut imaginer ces soldats qui avaient des robes et qui, justement, prenaient une ceinture pour pouvoir marcher plus normalement. La ceinture qui tiendra nos reins. La ceinture de la vérité. La vérité, ça vous donne des forces. Hier soir, je lisais ma Bible, mais vraiment, je me suis couché, j'étais armé. J'avais des casques, des ferrailles partout, hier soir. Voilà la teneur de mon pyjama hier soir. Pourquoi? Ça vous fait rire. Mais intérieurement, j'étais armé parce que j'avais lu des promesses. Et quand vous lisez la vérité, quand vous êtes imprégné de ces choses, vous avez vraiment une armure. La cuirasse de la justice, notre cœur, il n'a pas besoin d'être protégé, notre cœur. La cuirasse, vous savez ces soldats, vous voyez un petit peu les soldats de l'Empire romain qui avaient une cuirasse, ça fait que leur cœur était protégé, leur poitrine était protégée. Et notre cœur a besoin d'être protégé. Le casque du salut, la tête, est-ce qu'elle n'a pas besoin d'être protégée? Vous ne croyez pas que dans nos pensées, ça bouillonne parfois? Le casque du salut, est-ce que vous avez le casque du salut? Notre tête, elle a besoin d'être protégée. Vous voyez, c'est une véritable arme, le casque. Parce que notre tête, notre cerveau, notre entendement a besoin d'être protégé. Est-ce que vous croyez que le sang de Jésus-Christ vous a lavé? Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes sauvé? Vous l'avez ce casque ou vous doutez du salut? Je les plains, les chrétiens qui doutent du salut, je les plains. Je me demande quelles sont les expériences qu'ils ont faites vraiment lorsqu'ils se sont repentis et convertis. Le bouclier de la foi. Un bouclier. Est-ce que vous avez vu des gladiateurs se battre? Est-ce que vous avez vu des véritables gladiateurs? Vous avez vu les bons gladiateurs avec un bouclier, ils ne prennent aucun coup. Pourquoi? Parce qu'ils le manient de telle sorte qu'ils peuvent tout le temps se protéger. Et normalement, un vrai chrétien, il sait manier le bouclier. Voilà, on lui dit quelque chose. Moi, l'autre jour, j'ai discuté avec un témoin de Jéhovah. Il a essayé de me convaincre par rapport à des textes bibliques. Mais franchement, je me réjouissais de pouvoir parer chaque coup. Pourquoi? Parce que quand vous connaissez la parole de Dieu, vous pouvez manier le bouclier de la foi. Et c'est ça que Dieu veut. Il y a des chrétiens, ils sont là, je n'ai pas pu parler, je ne sais pas quoi dire. Lisez la parole de Dieu. Et c'est comme si vous appreniez à vous battre. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous apprenez à manier le bouclier. Et le bouclier, vous l'utilisez en fonction des coups qui viennent. Vous avez vu, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Dès le matin, vous pouvez vous lever. Et dès le matin, l'ennemi peut vous assaillir. Et vous devez, dès que vous vous levez, dire non, je refuse. Aujourd'hui, je passerai cette journée dans la grâce et dans la paix. Moi, je le vois le dimanche matin, parce que bon, je sais que je dois prêcher. Je me souviens de cette époque où l'ennemi essayait chaque fois de me décourager, une heure ou deux avant que je vienne prêcher. Et je me souviens, pendant des mois, le matin, je me suis levé de bonne heure, je me levais à 5 heures, Et je me mettais à genoux et je disais, tu vas prendre courage. Tu prendras courage. Et je vous promets, ça prenait 5 minutes, un quart d'heure, 1 heure. Et au bout du temps qu'il fallait, mon cœur était rempli de courage. Pas du mien, parce que le mien, mais du sien. Et je crois que nous devons commencer notre journée en nous armant de toutes les armes. Parce que Dieu veut que nous combattions. Vous voulez une église forte à Toulouse? Je ne parle pas de Saint-Agne, je parle de toutes les églises. Moi, vous savez, quand on me dit qu'il n'y a plus de réunion de prière, moi, je sais très bien que c'est le début de la fin. Mes frères et sœurs, aimez la prière, venez prier, invitez des frères et des sœurs, viens avec moi, on va prier pour nos enfants, mais c'est une tête de mule. Ça ne fait rien, parce qu'il y a des gens qui ne croient même plus que les têtes de mule peuvent se convertir. Est-ce que vous croyez que les têtes de mule peuvent se convertir? Regardez en face de vous et vous en avez la preuve. Est-ce que les sols de Tarse peuvent se convertir? Mais mes frères et sœurs, ne doutons pas un instant. Dieu peut convaincre de péché n'importe qui par son esprit. N'importe qui, c'est l'affaire de Dieu. Mais c'est pour ça qu'on devrait dire, allez, mardi, ah non, non, non. Parce que des fois, comme par hasard, on est crevé le mardi soir. On devrait dire non, c'est quelque chose de non négociable, comme le culte. Je ne négocierai ni le culte, je ne négocierai jamais la réunion de prière. Et croyez-moi, ça plaît à Dieu. Ça plairait à Dieu. Et c'est pour ça que nous devons inviter les autres. Allez, viens avec moi. Allez, viens avec moi ce soir, on va aller à la réunion de prière. On va prier pour nos enfants, pour nos petits-enfants. On va prier ensemble. Et même si vous n'avez jamais prié haute voix, Seigneur, sauve mes enfants. Sauve-les, je t'en supplie de l'enfer. Est-ce que c'est compliqué de dire ça dans une église? Est-ce que tout le monde peut dire, Seigneur, aie pitié de mes enfants? Est-ce qu'on ne voit pas ça dans la prière des gens qui sont approchés de Jésus? Seigneur, aie pitié de moi. C'est pas compliqué. Est-ce que Jésus les a délivrés? Ouais. Parce qu'ils l'ont fait de tout leur cœur. Vous croyez que Dieu est présent quand on s'assemble? Eh bien, prenez toutes les armes, prenez courage, prenez les armes. Et en plus, vous avez vu ces promesses? Au milieu de la famine, ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont intègres, ne souffriront jamais de la famine. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est écrit, c'est pas des blagues, c'est la vérité. Et je crois que lorsque les chrétiens, au-delà d'être des héritiers, des privilégiés, des adoptés et de tout ce que vous voudrez, deviennent de véritables soldats, je suis convaincu que Dieu est d'accord avec ces choses et qu'une église doit combattre le bon combat. Mes frères et sœurs, faites-en un sujet sérieux pour vous. Invitez des frères et sœurs à venir prier. Moi, je ne dis pas ça pour qu'on soit nombreux. Je dis ça parce que je sais que plus une armée est armée, plus une armée est nombreuse, plus une armée est forte, et plus Dieu la bénit. Oui ou non? Alors, pensez à ces choses, réfléchissez, pas peut-être que pour vous, puisque vous êtes là, mais peut-être dites à quelqu'un, tu veux pas venir mardi avec moi à la prière? On y va ensemble. Ah, mais je suis fatigué. Allez, on va manger une grillade. Ah oui. Je termine avec ce témoignage, mais une fois j'ai fait un test. J'avais proposé à un frère de venir prier avec moi. C'était 10h du matin, j'ai dit, tu veux pas venir, on va aller jeûner et prier. Il me dit, non, je suis crevé, on est fatigué, je suis fatigué et tout, non, je préfère rentrer et tout. Et vers midi, j'ai dit, tiens, tu veux pas, on va aller manger un petit truc, là, une bonne grillade. Ah, il me dit, ouais, ça me ferait plaisir. Sans commentaire. Bon, je mets ça sur le compte du combat, parce que c'est vrai que pour combattre aussi, il faut peut-être avoir envie, c'est vrai ou non? Et je ne le juge pas, ce frère, parce que le temps a passé et je me rends compte qu'il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Mais mes frères et sœurs, on a tout à gagner à avoir un bon système de chauffage dans l'église. Vous le croyez? Alors prions le Seigneur qui nous aide à être ses soldats, à avoir du courage, à être armés de toutes les armes. Méditez ces choses. Demain matin, votre culte personnel. Vivons ces choses. Vivons-les ensemble. Et nous aurons peut-être de très belles surprises dans les églises et dans nos familles. Prions ensemble, s'il vous plaît. Notre Père, notre Dieu, oui, nous croyons que nous sommes bénis, vraiment bénis, d'être tes enfants, de pouvoir t'appeler notre Père, de pouvoir réaliser que tu nous as adoptés, que nous sommes des élus, des privilégiés, que nous sommes adoptés, mon Dieu, que nous sommes scellés par ton esprit. Et c'est vrai que si nous regardions tous les noms que tu nous accordes, combien nous sentirions privilégiés. Mais nous croyons aussi que tu as fait de nous des soldats. Et nous voulons, Seigneur, nous revêtir de toutes ces armes. Seigneur, tu savais qui viendrait ce soir. Tu vois tous ceux qui sont démunis, qui sont désemparés, découragé. Oh Seigneur, tu es un Dieu de victoire. Seigneur, s'il te plaît, ce soir, permets que tous nous puissions rentrer dans nos demeures avec ce désir d'être armés, de considérer ton œuvre, afin que nous ne nous lassions pas l'âme découragée, mais qu'au contraire, nous soyons des instruments de bénédiction. Et je veux vraiment te prier pour tous mes frères et sœurs qui sont là ce soir, afin que nous puissions voir, oui, comme cela a été du temps de la réforme, partout dans ce pays, des églises remplies d'hommes et de femmes qui s'encourageront à combattre le bon combat ensemble. Seigneur, s'il te plaît, que tous les chrétiens de Toulouse se réveillent, que tous ensemble, oui, nous puissions former une armée qui amènera la victoire, déjà rien que dans nos familles, Seigneur. Tu vois, tous nos enfants et tous nos petits-enfants, nous croyons que tu veux tous les sauver. Alors Seigneur, donne-nous, oui, la grâce de prendre courage et de prendre toutes ces armes afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.